Jésus sur la croix, la souffrance. Jésus a voulu prendre sur lui et vivre le mystère de la souffrance humaine, et plus spécialement ses sentiments de dépouillement et d'abandon que ressent tant homme devant la mort. Et quand vint la sixième heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre, et cela dura jusqu'à la neuvième heure. Et à la neuvième heure, Jésus cria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani » ce qui veut dire « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Évangile de Marc 15, 33. C'est le cri de l'homme agonisant. Ce n'est pas un cri de révolte, mais le suprême cri d'abandon que ressent tout homme qui meurt, et Jésus a voulu vivre cette heure. C'est pour cette heure-là qu'il est venu. Il a assez dit au cours de sa vie. Cette heure dont il a si souvent parlé et qu'il redoutait comme tout homme. Il n'a pas esquivé l'angoisse de la mort qui est le propre de l'homme. Il est venu pour nous montrer cet abandon au Père. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Évangile de Luc 23, 46. Au dernier moment de Jésus sur la croix, c'est la rencontre des deux volontés, des deux libertés qui se jouent. Liberté de l'homme, liberté de Dieu. Volonté de l'homme, volonté de Dieu. Jésus, dans un grand réalisme, vit sa mort et ouvre à tout homme la route de l'abandon à la volonté du Père. Une seule plainte échappe à Jésus sur ses souffrances physiques. Il dit « J'ai soif ». Soif des fiévreux, soif des blessés, soif des torturés. Soif bien connue, soif dévorante de ceux qui ont perdu tant de sang. Après cela, Jésus, sachant que désormais tout était consommé, afin que fît consommée l'Écriture sainte, dit « J'ai soif ». Évangile de Jean 19, 28. Il a pris aussi cette souffrance, si connue à tant d'hommes dans leur agonie. À partir de cette heure, notre souffrance tournée vers la gloire et la résurrection n'a plus le même sens. C'est la lumière qu'apporte à tous les hommes le mystère de la croix, dès que la foi les envahit. Il y avait là un vase rempli de vinaigre, ayant donc fixé à un javelot une éponge, rempli du vinaigre, ils l'approchèrent de sa bouche. Lorsque donc Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Toutes choses sont parfaitement exécutées. » Évangile de Jean 19, 29 à 30. La vie de Jésus, ses actions, ses paroles et les circonstances qui l'accompagnent dépassent totalement les hasards. Tout est mené par Dieu dans le respect de l'homme. Il s'agit de la venue du Fils, l'envoyé du Père, et du salut qu'il réalise et accomplit. Tout est consommé. Évangile de Jean 19, 30. Et poussant un grand cri, Jésus dit, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Évangile de Luc 23, 46. Cri de confiance en sa résurrection toute proche. Invitation pour tous les hommes à s'abandonner librement au Père éternel. C'est là toute la profondeur du sacrifice de Jésus. Il consiste avant tout dans cette acceptation de notre condition mortelle, et il donne à cet abandon à la volonté de Dieu une dimension extraordinaire. La souffrance et la mort de Jésus viennent conclure l'œuvre d'amour de Dieu à l'égard de l'homme. Soudain, l'homme n'est plus enfermé dans son néant des créatures, car le Dieu à qui il s'en remet n'est pas le Créateur lointain et distant, mais le Père, son Père. Ayant dit cela, il expira. Évangile de Luc 23, 46. Après la mort de Jésus, la mise au tombeau. Jésus fut si grand dans son dernier cri, en remettant son âme aux mains du Père, que les centurions des gardes, un soldat, sentit la divinité se trahir dans ce cri d'agonie, tellement il fut empreint de noblesse et de grandeur. et le centurion qui s'était tenu en face de lui, voyant qu'il avait expiré ainsi, dit, « Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. » Évangile de Marc 15, 39. Après la mort de Jésus, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate d'enlever le corps de Jésus, et Pilate le permit. Évangile de Jean 19, 38. L'amitié de Jésus n'est pas réservée à tel ou tel. Tous les hommes un jour peuvent rencontrer cette amitié, les hommes comme les femmes, les riches comme les pauvres. Les Juifs, donc, comme c'était la parasève, afin que le corps ne demeure pas sur la croix durant le sabbat, car c'était un grand jour que ce sabbat, demandèrent à Pilate qu'on leur rompît les jambes et qu'on les enlevât. Évangile de Jean 19-31. Les soldats vinrent donc et rompirent les jambes du premier brigand, puis l'autre qui avait été crucifié avec lui. Mais venant à Jésus, comme ils virent qu'il était déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes, mais un des soldats lui piqua les côtés de sa lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Évangile de Jean 19, 32 à 34. Ses amis ne l'ont pas abandonné dans la mort, malgré la honte qui enveloppe tout condamné. Joseph d'Arimathie, Nicodème, Marie de Magdala et Marie, mère de Joseph, ont su l'entourer de leur affection avec courage et malgré le risque. Ceux-là n'eurent pas peur de se compromettre. Mort, ils l'entourent encore de tendresse. Joseph d'Arimathie a acheté pour lui un linceul d'une blancheur immaculée. Il était l'un de ceux que la noble figure de Jésus avait séduit et rendu même entreprenant jusqu'à oser aller trouver Pilate, le gouverneur. Évangile de Luc 23, 50-51. Quant aux femmes, elles regardèrent le monument et comment avait été placé son corps. Évangile de Luc 23, 55. Puis Joseph, ayant roulé une grosse pierre contre l'entrée du tombeau, s'en alla. Il y avait là Marie de Magdala et l'autre Marie assises en face du sépulcre. Évangile de Matthieu 27, 60 à 61. Et s'étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums. Et le jour du sabbat, elles demeurèrent en repos, selon le précepte. Évangile de Luc 23, 56. Le lendemain, jour qui suit la parasève, les grands prêtres et les pharisiens se réunirent auprès de Pilate et lui dirent, « Seigneur, nous nous sommes souvenus que cet imposteur a dit, étant encore en vie, « Après 3 jours, je ressuscite. Donne donc l'ordre que le sépulcre soit gardé sûrement jusqu'au 3e jour, de peur que ses disciples ne viennent les dérober et ne disent au peuple, il est ressuscité des morts. Et la dernière imposture serait pire que la première. » Pilate leur dit, « Vous avez une garde. Allez, prenez vos sûretés comme vous savez le faire. » Ils allèrent et mirent les sépulcres en sûreté, scellant la pierre avec leur garde. Évangile de Matthieu 27, 62 à 66. Les grands prêtres et les pharisiens ont pris leurs précautions. Ils ont prévu l'imposture possible de la fausse annonce de la résurrection de la part des apôtres. Ils ont prévu les vols possibles du corps du crucifié. Et agissant en conséquence auprès du Pilate, toutes les précautions seront prises pour empêcher cette imposture. Garde au tombeau, scellée sur la meule des pierres qui enferme l'entrée. Ils font exactement ce qu'il faut pour rendre encore plus évidente la résurrection, si elle doit avoir lieu. Les saintes femmes vont au tombeau. Marie-Madeleine et Marie, mère de Jacques, ont patienté pendant tous les sabbats, mais elles n'y tiennent plus. Il fait encore nuit et voici qu'elles sont déjà en route pour les tombeaux. Jésus occupe une telle place dans leur cœur qu'il a conquis, car à la vue du tombeau, Marie-Madeleine le croit violé et court confier aux amis Pierre et Jean sa douleur d'avoir même perdu le corps de celui qu'elle aimait tant. Elle est désemparée, sans même songer encore à la résurrection. Tout cela est hors de sa pensée. Mais elle annonce à Pierre et à Jean que le corps du Seigneur a disparu. Et les voilà tous les deux qui courent à perdre haleine vers le tombeau. Jean, déférant envers son aîné, n'entre pas, mais se penche pour regarder. Pierre entre. Des linges. Jésus ramène toute l'humanité vers Dieu, vers le Père, tous ses fils dispersés dans le temps et l'espace. Sa résurrection est le signe de notre adoption, d'où sa parole dite à Marie-Madeleine. Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Mais va vers mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala vient annoncer aux disciples, j'ai vu le Seigneur et ce qu'il lui avait dit. Évangile de Jean 20, 17 à 18. Le Fils de l'homme regarde ses disciples comme des frères, et celle qui annonce sa résurrection est une femme, tirée par lui du péché, et passée du mépris des hommes à l'amour respectueux des dieux. Jésus lui révèle en premier le mystère et l'envoie l'annoncer aux siens. Les tombeaux vides. Au matin de Pâques, les saintes femmes ne s'attendent nullement à la résurrection. Elles viennent simplement pour oindre le corps du Seigneur. Elles viennent l'ensevelir selon la coutume. Il faut qu'elles voient les tombeaux ouverts pour qu'elles commencent à se troubler. Et il faut qu'un ange, messager flamboyant des dieux, leur ouvre l'esprit pour leur faire comprendre la vérité dans sa réalité. Or l'ange leur dit, « Ne soyez pas dans la stupeur. Vous cherchez Jésus de Nazareth, les crucifiés. Il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici la place où on l'avait déposé. Mais allez et dites à ses disciples et à Pierre, il vous précède en Galilée, là vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Évangile de Marc 16, 6 à 7. Les témoins de la résurrection. Les gardes n'ont pas vu la résurrection, mais comme Marie de Magdala et Marie Jacobée, qui arrivent au tombeau à l'aube, ils sont terrifiés par les tremblements de terre, l'ange du Seigneur roulant la pierre et l'aspect de ce messager céleste. Son aspect était comme un éclair et son vêtement blanc comme la neige. À sa vue, les gardes effrayés tombèrent et deviennent comme morts. Évangile de Matthieu 28, 3 à 4. Luc a noté l'attitude de Pierre lorsque les femmes viennent annoncer aux apôtres que le corps du Seigneur a disparu du tombeau. Les femmes radotent d'après eux, mais leurs paroles ont tout de même remué ces rudes marins, et voici que Pierre court maintenant vers le tombeau. Or Pierre se levant courut au tombeau, et avançant la tête, il ne voit que des bandelettes, et il retourna chez lui, s'étonnant de ce qui était arrivé. Évangile de Luc 24, 12. Saint Jean, de son côté, note bien que c'est graduellement, après la découverte du tombeau vide, que lui, comme Pierre, commence à entrevoir l'immense mystère du ressuscité. Il note même, « Et il vit et il crut. » C'est qu'il ne savait pas encore que d'après l'Écriture, il devait ressusciter d'entre les morts. Évangile de Jean 20, 8 à 9. Ils attendaient un roi, un bonheur terrestre. C'est tout un autre mystère qui se révélait à eux, car cette résurrection ne pouvait être que le prélude de la résurrection générale et d'un changement complet de perspective pour l'humanité. Cette humanité s'est trouvée bien devant l'annonce de la bonne nouvelle du royaume des dieux. À nous, aux apôtres, de changer de mentalité progressivement. Marie de Magdala a eu le privilège de la première rencontre avec Jésus au matin de Pâques. Cette femme désemparée, engloutie dans la faiblesse de son péché et à qui Jésus a permis d'exister, ne nous ouvre-t-elle pas le chemin de la merveilleuse amitié qui l'a transformée? Marie-Madeleine, après la mort de Jésus, reste désemparée. Avec lui, elle a tout perdu. Elle se tient près du tombeau, elle pleure. Or, Marie se tenait près du tombeau, au dehors, pleurant. Évangile de Jean 20:11. Femme, pourquoi pleures-tu? Sa réponse la montre toute tournée vers lui, car avec sa mort, son univers s'effondre. Parce que l'on a pris mon Seigneur, et que je ne sais pas où on l'a mis. Évangile de Jean 20:13. Les larmes et le chagrin l'aveuglent, alors qu'elle le voit, qu'elle le prend pour les jardiniers. Seigneur, si tu l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le prendre. Mais un mot, un seul mot, son nom, prononcé avec tendresse, lui révèle au timbre de la voix la présence de l'ami et la jette aux pieds de Jésus. Marie, Rabouni. Sur le chemin d'Emmaüs, Jésus rejoint Cléophas et son compagnon qui dévisent tout triste sur les événements de la mort tragique du Seigneur. Il vient cheminer avec eux. Le voici au cœur de leur angoisse et de leur doute. La dimension de la foi leur échappe. Ils ne reconnaissent pas Jésus et dans leur état d'esprit, ils ne peuvent pas le reconnaître. Comme toujours, notre raison se heurte contre le mystère de la souffrance et de la mort. Et pour eux comme pour nous, le mystère de la souffrance empêche de reconnaître le Seigneur, si nous ne donnons à ce mystère une dimension d'éternité. D'où cette parole si forte pour nous tous, adressée par Jésus à ses amis sur la route d'Emmaüs. « Oh, que vous êtes peu clairvoyants! Oh, que votre cœur est donc lent à croire à tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il que le Christ souffrît cela et entra ainsi dans sa gloire? Et commençant par Moïse et tous les prophètes, il leur interpréta ce qui les concernait dans toutes les Écritures. » Évangile de Luc 24, 25 à 27. Jésus leur dit tout cela avec une telle chaleur que lui disparut, ils s'écrièrent. Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait dans le chemin, tandis qu'il nous découvrait les Écritures? Évangile de Luc 24, 32. Et il advint qu'après s'être mis à table avec eux, prenant le pain, il bénit Dieu, et l'ayant rompu, il leur donnait. Leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, et lui disparut d'auprès d'eux. Évangile de Luc 24, 31. Et se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem, et ils trouvèrent réunis les onze et leurs compagnons qui leur dirent, « Le Seigneur est vraiment ressuscité, et il est apparu à Simon. » Et eux-mêmes racontèrent ce qui s'était passé dans le chemin, et comme il avait été reconnu par eux à la fraction du pain. Évangile de Luc 24, 35. Jésus apparaît à ses disciples. Thomas est absent. Au soir de la résurrection, son apparition déchaîne la joie de ses disciples, les emmurés du cénacle. Tout s'était écroulé. Seules les portes du cénacle verrouillées protégeaient ces désespérés des menées de leurs ennemis qui venaient de triompher en assassinant Jésus. Aussi l'apparition de Jésus parmi eux les saisit de crainte et de joie. Jésus les calme. Paix à vous. Les raisonne. Non, il n'est pas un esprit. De quoi êtes-vous troublés? Et pourquoi des incertitudes s'élèvent-elles en vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds. Oui, c'est bien moi. Touchez-moi. Et rendez-vous compte qu'un esprit n'a pas de chair ni d'os comme vous. Constatez que j'en ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Évangile de Luc 24, 38 à 40. Luc a admirablement décrit ce mélange de joie et de crainte qui les saisit devant les ressuscités. Comme ils étaient encore incrédules à force de joie et dans l'étonnement, il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger ? » et ils lui donnèrent un peu de poisson grillé, et il le prit et en mangea en leur présence. Évangile de Luc 24, 41 à 43. Et il va donner aux siens cet étonnant pouvoir de recevoir l'Esprit Saint qui les guidera pour retirer le péché du monde. Et il leur dit donc de nouveau, paix à vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et ayant dit cela, il souffla sur eux et leur dit, recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Évangile de Jean 20, 21 à 23. Heureux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Jésus reproche à ses amis de n'avoir pas cru à sa résurrection à travers le témoignage des saintes femmes. Il leur reproche leur incrédulité et leur dureté de cœur. Enfin, il apparaît aux onze eux-mêmes pendant qu'ils étaient à table et il leur reprocha leur incrédulité et leur dureté de cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter des morts. Évangile de Marc 16, 14. Jésus souligne là l'essentiel de la foi à son message et à sa personne, comme l'essentiel de la foi en sa résurrection. C'est à travers des témoins qu'elle naît. Lorsque Thomas appelé Didyme, l'un des douze qui n'était pas avec eux lorsque Jésus ressuscité vint, les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur », mais il leur dit, « Si je ne vois pas dans ses mains les marques des clous, et si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. » Lorsque 8 jours après Thomas a constaté par lui-même la réalité du corps de Jésus, il dit, « Mon Seigneur et mon Dieu !» Et Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Évangile de Jean 20-28. La grande espérance du chrétien reste du domaine de la foi. Elle n'est pas une démonstration d'ordre purement rationnel. La grande béatitude de Jésus pour ceux qui croient en lui. Rencontre au bord du lac de Tibériade. Jésus avait su souder ses amis en une solide équipe fraternelle. 7 d'entre eux ont répondu à son invitation de retourner l'attendre en Galilée. Jésus se manifesta ainsi aux disciples à la mer de Tibériade. Évangile de Jean 21, 1 à 3. Ils forment un groupe d'amis sous les ordres de celui que Jésus avait choisi et placé à leur tête, Simon-Pierre. Or, le matin déjà venu, Jésus s'est trouvé sur les rivages. Cependant, les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Évangile de Jean 21, 4. Était-ce dû à la brume légère de l'aube? Question sa silhouette? Était-ce parce que le ressuscité échappe à tout regard, s'il n'est pas un regard de la foi? Toujours est-il que, tout comme Marie-Madeleine, sa voix vient éveiller brusquement les vieux souvenirs, deux simples phrases qui le ressuscitent. « Jeunes gens, auriez-vous du poisson à manger? » Ils lui répondirent « Non ». Lui leur dit « Jetez les filets du côté droit de la barque, et vous trouverez. » Évangile de Jean 21, 5 à 6. Et voilà les grands cris d'enthousiasme de l'apôtre qu'il aimait. « C'est le Seigneur !» Car si Jean était retourné à ses filets avec Pierre et André et les autres, la vision du Christ les hantait. Il ne pensait plus qu'à lui et à tous les gestes du pêcheur. Il les réalisait automatiquement et brusquement, au timbre de cette voix qui les hale de la berge et donne l'ordre de jeter le filet à droite, Jean sort de sa torpeur. Son cœur bat à tout rompre. Il a crié à Pierre, « C'est le Seigneur !» Pierre, de son côté, entendant Jean, lui affirmait que c'est Jésus qui est là, sur la rive, sans attendre que la barque accoste. Il enfile sa tunique, se jette à l'eau et se dirige vers le maître. L'amitié de Jésus va se retrouver à l'aise dans ce repas champêtre pris avec les siens sur les bords du lac. Tout est prêt. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils s'aperçoivent sur le sol un feu de braise sur lequel il y avait du poisson et du pain. Jésus leur dit, « Apportez quelques poissons de ceux que vous venez de prendre maintenant. » Simon-Pierre monta donc dans la barque et releva vers la terre le filet plein de 153 gros poissons. Et malgré ce nombre, le filet ne fut pas rompu. Jésus leur dit, « Venez déjeuner. » Jésus s'approche et prend le pain, et le leur donne, et le poisson de même. Évangile de Jean 21, 9 à 13. Le repas, c'est la fête, et aujourd'hui, c'est la fête mystérieuse où l'on reconnaît le ressuscité à la fraction du pain et grâce au poisson partagé. M'aimes-tu? Après le déjeuner au bord du lac de Tibériade, où Jésus a préparé lui-même le poisson grillé et le pain, se place le dialogue entre Pierre et son Seigneur. « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci ?» Il lui dit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Il dit, « Paie mes agneaux. » Il lui redit une seconde fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? » Il lui dit, « Oui, Seigneur, tu sais bien que je t'aime. » Il lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? » Pierre fut contristé de ce que Jésus lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu ? » Et il lui dit, « Seigneur, tu connais toutes choses, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Évangile de Jean 21, 15 à 17. Jésus offre ainsi son amitié à Pierre, efface le triple régnement et provoque sa triple profession de foi, de plus en plus véhémente, pour l'établir de nouveau le pasteur universel. Dans cet entretien, tout est suggéré plutôt qu'exprimé. Pas de reproches directs. Ce sont des questions délicates, des allusions discrètes, des phrases chargées de sens qui font explosion dans l'âme sans la blesser. Quel art vraiment divin de pénétrer dans les cœurs pour en manier les secrets ressorts. Allez enseigner toutes les nations. C'est au monde entier que s'adresse le message de Jésus, porteur de la grande espérance de la vie. Avec son triomphe sur la mort, Jésus change la vie dans un sens plénier. Rien n'est plus comme avant. Et les 11 disciples se rendirent en Galilée, à la montagne que leur avait désignée Jésus. Et en les voyant, ils se prosternèrent, eux qui avaient douté. Et Jésus s'approche d'eux, leur parle en ce terme. « Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc, enseignez toutes les nations, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Et voici que je suis avec vous en tout temps jusqu'à la consommation des siècles. » Évangile de Matthieu 28, 16 à 20. La force de l'apôtre, c'est cette sécurité puisée dans l'amitié du Seigneur. Ce qu'il annonce, c'est l'Évangile, la parole du Christ, et non la sienne. Et il a reçu la promesse de sa présence près de lui au milieu de toutes ses difficultés. Allez, par le monde entier, prêchez l'Évangile à toute créature. Évangile de Marc 16, 15. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Évangile de Marc 16, 16. Oui, il faut enseigner, proposer, il faut prêcher l'Évangile. L'apôtre, l'ami de Jésus, est celui qui a l'audace d'annoncer Jésus-Christ. Merveilleux Seigneur ressuscité, que chaque messe, l'Eucharistie nous rend présents, non seulement dans la réalité de son corps et de son sang, mais aussi de ses paroles. L'Esprit Saint, promesse du Père. Au moment de quitter les siens, Jésus dit, « Ainsi était-il écrit, et ainsi fallait-il que le Christ souffrît et qu'il ressuscitât des morts le troisième jour, et qu'on prêchât en son nom de changer nos mentalités en vue de la rémission des péchés à toutes les nations. » Évangile de Luc 26, 46 à 47. La souffrance est inscrite en nous-mêmes. Sans le Christ, on ne la comprend pas. Avec lui, l'homme souffrant et mortel se met en marche vers la résurrection. Tout prend un sens. Et c'est lui qui nous permet de comprendre cette mission de Jésus. C'est lui qui nous persuade, qui nous permet d'entrer avec le Christ dans les mystères de la souffrance de la croix. C'est l'Esprit Saint, cette promesse du Père, qui nous revêtit de la force d'en haut. Vous êtes les témoins de ce fait, et voici que je vous envoie cette promesse du Père, que vous soyez revêtus de la force d'en haut. Évangile de Luc 24, 49. C'est l'Écriture, la Sainte Écriture ouverte à nos cœurs par l'Esprit Saint, qui nous permet de comprendre les mystères de l'homme, et en particulier ce mystère de la souffrance. C'est dans la Bible que nous retrouvons la véritable évolution de l'homme en marche vers le Christ. Ainsi, une étude de l'Écriture sainte, sous le regard de Dieu, avec la force de l'Esprit Saint, fait possible la découverte du mystère du Christ crucifié et du Christ ressuscité. Amen.